Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et vous nous parlez aujourd'hui de ce coup d'État avorté au Gabon.
Oui, complètement manqué, avec une situation sous contrôle, dit la présidence du Gabon après les événements d'hier. Je le rappelle, prise de contrôle au petit matin de la radio-télévision de Libreville par un groupe de la garde républicaine qui appelle au soulèvement, puis réplique de la gendarmerie, finalement deux putschistes tués, leur chef arrêté. Un drôle de putsch en somme qui sonne un peu comme un avertissement pour le pouvoir cinquantenaire des Bongos, en tout cas qui pose beaucoup de questions. Bonjour Frédéric Mbamisang.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre le temps d'être au téléphone avec nous ce matin. Vous êtes docteur en stratégie militaire, spécialiste, on pourrait dire, des forces armées au Gabon, chercheur associé au LAM de Bordeaux. Alors justement, si c'est une tentative de putsch, en tout cas c'est une des plus courtes de l'histoire, 5 minutes de déclaration de prise de pouvoir qui se sont finies dans le sang, quelques manifestations sporadiques de jeunes qui ont cessé le soir et l'armée qui a pris position dans Libreville. Ce qu'on voit déjà, c'est que le bilan a évolué. Le soir, on parlait finalement non pas de 5, mais 7 putschistes arrêtés, je crois 2 blessés et 2 tués. Est-ce qu'on a une idée plus précise de combien et de qui sont ces putschistes aujourd'hui?
Ben, on ne peut pas avoir une idée précise parce qu'il s'agit d'un putsch militaire et on connaît que dans le milieu militaire, il existe une certaine solidarité. Le bilan était d'abord de 5 putschistes, dont 2 morts et 3 qui ont été pris par la gendarmerie. Aujourd'hui, on parle de 7, vous voyez. Ça veut dire qu'il y a une certaine évolution.
Et alors, cette garde républicaine ou cette compagnie d'honneur de la garde républicaine, comme a dit le porte-parole du gouvernement à laquelle appartenaient ces putschistes, qu'est-ce que c'est? C'est une unité particulière tout de même?
Bien sûr, c'est une unité particulière, mais qui appartient tout de même aux forces de défense.
Et comment est-ce qu'elle fonctionne? On dit qu'elle a son budget propre, par exemple, qui ne dépendrait pas du ministère, c'est ça?
Effectivement, elle a un fonctionnement autonome et même au niveau des recrutements, c'est l'une des forces les mieux garnies au Gabon.
Et alors, ces putschistes-là, ils se sont réclamés. On l'a vu d'ailleurs dans la déclaration, les 3 qui sont apparus à l'écran étaient très jeunes. Ils se sont réclamés du MPJ-FDS, Mouvement Patriotique des Jeunes de Défense, des Forces de Défense et de Sécurité du Gabon. Est-ce que vous en aviez entendu parler et qu'est-ce que c'est à votre avis?
Mais c'était un indicateur très pertinent lorsqu'on analyse la question des Forces de Sécurité et de Défense au Gabon. Je pense que ce putsch militaire mérite d'être analysé sous 2 angles particuliers, à la fois politique et militaire. Et quand on parle justement si on fait une analyse politique, on verra bien que le putsch en question concerne bien, disons, le régime, le fonctionnement des institutions après Ali Bongo. Vu que le 24 octobre, Ali Bongo c'est plus Ali Bongo qui gouverne le Gabon, c'est le gouvernement et les institutions. Et quand les putschistes font ce coup, ils précisent dans leur déclaration qu'ils voulaient mettre en place un conseil de transition. Ce qui voudrait dire qu'ils contestent le fonctionnement actuel des institutions. C'est sous l'angle politique. Ce n'est pas Ali Bongo en tant que personne qui est remis en cause, mais c'est plutôt le fonctionnement de la politique, des institutions politiques au Gabon après Ali Bongo.
Et vous faites bien de le préciser, on va revenir à cette déclaration et à cette double lecture politique-militaire. Juste encore un dernier mot sur ces putschistes, celui qui s'appelle Kelly Ondo Obiang, qui est présenté comme un jeune lieutenant et commandant adjoint de la garde républicaine. Est-ce que c'est confirmé et qui est-il?
Non, c'est pas confirmé. Enfin, je ne pourrais pas mieux vous citer là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que M. Kelly Ondo revendiquait l'identité sous laquelle il s'est présenté, mais il faudrait que le ministère de la Défense donne des précisions là-dessus, si effectivement il appartenait à ce corps ou pas. Mais a priori, on pourrait se dire que M. Kelly Ondo appartenait effectivement à la garde républicaine.
Et alors, pour en venir au contexte politique, c'est vrai qu'il y a un timing particulier. On pourrait dire on est à peu près 2 mois et demi après cette AVC du président Ali Bongo en Arabie Saoudite. Il y a eu notamment, il y a quelques jours, une déclaration de nouvelle année très attendue, qui a été très controversée aussi parce que il y avait encore des doutes sur sa santé. Et, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas du tout convaincu finalement, du moins une partie, et là on le voit dans l'armée d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs l'un des motifs évoqués par le putschiste. En lisant sa déclaration, il a bien dit qu'ils n'ont pas été convaincus par la déclaration du président de la République le 31 décembre dernier. Vous voyez, donc plutôt que d'être un motif qui venait rassurer l'opinion, disons cette sortie du président de la République a plutôt créé la frustration dans la tête des uns et des autres.
Ça veut dire que, parce qu'il y a eu une communication assez, disons, sporadique.
Assez court. Voilà, ça n'a pas convaincu. Pendant que les gens attendaient à ce que le président démontre une fois de plus combien de fois il est capable de pouvoir diriger ce pays, le président a plutôt présenté les signes de quelqu'un qui était de plus en plus affaibli. Ça a créé de la suspicion dans la tête des uns des autres.
Alors même que le parti du président venait d'emporter aux dernières législatives quand même une très très forte majorité à l'Assemblée nationale.
Bien sûr, bien sûr. Il faut le souligner que le PDG a eu une forte majorité aux dernières élections législatives. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème, puisque les putschistes ne remettent pas en cause cette majorité. Les putschistes remettent en cause le fonctionnement des anciennes institutions, notamment après qu'Ali Bongo soit interné ou soit parti en Arabie Saoudite.
Oui, et précisément, donc vous le soulignez deux fois, c'est pas tant Ali Bongo qui est visé que ce qu'il y a appelé la confiscation du pouvoir par une partie de la hiérarchie, par ces putschistes. Qu'est-ce qu'ils espéraient, selon vous, ou exprimaient, disons, est-ce que c'était un soulèvement avec notamment un appel aux jeunes, ou alors est-ce que c'était de prendre le pouvoir tout simplement à travers ce Conseil National de Restauration dont on voyait mal comment il allait pouvoir s'instaurer?
Je fais bien la différence entre le fonctionnement des institutions depuis 2009, parce qu'Ali Bongo a été élu en 2009, jusqu'en 2018, le 24 octobre, la date à laquelle Ali Bongo a quitté le territoire. L'armée n'a jamais manifesté un quelconque signe. Et même en 2016, les élections dites des élections contestées, l'armée n'a jamais manifesté. Comment se fait-il qu'après le départ d'Ali Bongo et avec les réformes constitutionnelles, les nouvelles réformes constitutionnelles qui n'ont pas trouvé l'assentiment de la population, comment se fait-il que l'armée se soulève? Vous voyez, cette période-là peut nous amener à comprendre pourquoi l'armée est allée jusqu'à faire un putsch.
Et alors, justement, qu'est-ce que vous en déduisez de cette période quand vous posez la question « Comment se fait-il que l'armée soulève ?» Encore une fois, dans le communiqué, Kelihondo Obiang parle de complicité de la hiérarchie militaire dans les événements du 31 août 2016. Donc on voit bien que il y a quand même un vieux passif dans cette crise post-électorale qui a fait beaucoup de morts. Et puis de complicité dans la théâtralisation du discours du Nouvel An. Qu'est-ce qui est reproché au fond? C'est une mainmise de l'armée sur Ali Bongo?
Non, en fait, Kelihondo fait bien la différence entre la classe des officiers supérieurs et des officiers généraux, et la classe des officiers subalternes dont il appartient, et le reste des soldats. Quand Kelihondo ramène le débat en 2009 et en 2016, pour dire que plusieurs Gabonais sont tombés et que les officiers généraux qui sont chargés de donner les ordres n'ont pas manifesté, Kelihondo voudrait dire qu'il y a une certaine complicité entre les officiers généraux, entre la classe des officiers généraux et la politique. Maintenant, il dit que la nouvelle classe et la nouvelle génération des jeunes à laquelle il appartient, c'est-à-dire la classe des officiers subalternes et le reste des soldats, il se revendique l'identité patriotique. Lorsque Kelihondo fait cette différence, Kelihondo voudrait montrer que depuis 2016, il y a déjà des frustrations et des divisions au niveau de l'armée. D'une part, la classe qui défend la population, et d'autre part, la classe des officiers généraux supérieurs qu'il soupçonne d'être complice avec le pouvoir d'Ali Bongo.
Ce qui fait que on voit qu'une partie des divisions qui étaient dans la société aujourd'hui ont fini par traverser l'armée, c'est un peu ça.
C'est exactement ça.
Et alors quelle suite est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que c'est une répression, poursuite du dialogue? Le président Bongo est toujours pour l'instant en train de se faire soigner en convalescence au Maroc. Est-ce qu'il y a des informations là-dessus?
Il faut dire qu'il y a le porte-parole du gouvernement et le directeur de cabinet, Lali Bongo, qui communique de temps en temps, même si certains estiment que cette communication-là n'est pas convaincante. Mais on ne peut que se satisfaire des informations que nous avons des proches d'Ali Bongo.
Eh bien, écoutez, à suivre sur fond de division aussi familiale, on en reparlera. Merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui. Frédéric Mbamissan, je le rappelle, chercheur associé au LAM de Bordeaux.